Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Eh bien, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques. Aujourd'hui, le monde confisqué, c'est un essai sur le capitalisme de la finitude, comme le sous-titre l'indique, 16e siècle, 21e siècle, vous avez 317 pages de lecture, plus les annexes, qui nous amènent à 368 pages pour le prix de 23,90 €, je vous rassure, il les vaut. Alors l'auteur, c'est Arnaud Rhin, qui est né en octobre 77, qui est un économiste et historien français, spécialiste de l'histoire économique et d'économie politique, qui est directeur d'études à l'EHESS, l'étude en sciences sociales. Ses travaux portent principalement sur les dynamiques économiques, les théories économiques et leur implication historique. Arnaud Rhin a étudié l'économie à l'Université de Nantes. Il a fait un DEA d'histoire de la pensée économique à l'École supérieure de Fontenay-aux-Roses et après une thèse consacrée à la philosophie et à l'économie chez l'abbé Étienne Bonneau de Condillac à Paris, en Sorbonne. Il a obtenu l'agrégation du supérieur en sciences économiques. C'était en 2006. Ses travaux portent sur l'économie politique des Lumières, l'antiphysiocratie, le système de l'eau, le cercle de Gournay. Il travaille depuis sur les savoirs économiques oubliés, le mercantilisme et les mutations économiques du capitalisme. Il conceptualise le capitalisme de la finitude et l'accaparement, la prédation. Arnaud Rhin était professeur à l'Université de Brest, à l'Institut d'études européennes de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Il est passé par l'Université de Princeton aux États-Unis. Et puis, il est chercheur en délégation aujourd'hui CNRS à l'EHESS, donc qui est l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, vous voyez, un spécialiste très averti. L'éditeur, eh bien, ce livre est édité chez Flammarion. Alors, il y a une collection particulière, ça s'appelle « Le présent de l'histoire ». Et Flammarion nous le dit, dans un contexte où l'histoire est essentielle pour comprendre et conceptualiser les défis actuels. Cette collection, elle est dirigée par Antoine Lilti, qui est lui aussi professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Histoire des Lumières, un garçon absolument passionnant. Donc cette collection proposera, à partir d'octobre dernier, c'est assez récent, des ouvrages originaux destinés à un public diversifié, intéressé par les dernières avancées en recherche historique. Donc c'est une collection qui embrasse une portée vaste, hein, sans contraintes chronologiques ou géographiques, qui couvre des périodes allant de l'Antiquité jusqu'à l'ère contemporaine et qui va privilégier des ouvrages qui abordent des problématiques intellectuelles et politiques pertinentes. Donc ça permet de contribuer aussi au débat public actuel. Des livres détaillés, souvent de 300 à 400 pages, avec une analyse approfondie. Puis il y aura des ouvrages aussi plus concis, de 200 pages, centrés sur un récit ou une prise de position tranchée dans un débat historique actif. Alors ce monde confisqué, eh bien, que nous dit-on ? Donc si on lit la quatrième de couverture, nous apprenons que l'utopie néolibérale d'une croissance globale et continue des richesses est désormais derrière nous. C'est la thèse d'Orin. Mais, nous dit-il, le capitalisme n'est pas mort pour autant. Sa forme actuelle n'est ni réellement nouvelle, ni totalement inconnue. Elle est propre à tous les âges où domine le sentiment angoissant du monde fini, borné, limité, et qu'il faut s'accaparer dans la précipitation. Ce capitalisme se caractérise par la privatisation et la militarisation des mers, vous voyez, on y est en plein, hein. Un commerce monopolistique et rentier qui s'exerce au sein d'empires territoriaux, l'appropriation des espaces physiques et cyber par de gigantesques compagnies privées aux prérogatives souveraines, bonjour Monsieur Musk, ça c'est moi qui le rajoute, et qui vont dicter leur rythme. Dans cet essai, Arnaud Rhin va nous dévoiler ce fameux capitalisme de la finitude. Il va en éclairer les mécanismes aux trois périodes où il s'épanouit, 16e, 18e siècle, 1880, 1945 et 2010 à nos jours. Et donc l'auteur, Arnaud Rhin, offre une toute nouvelle perspective sur l'histoire mondiale et éclaire les grands enjeux de notre temps. Alors comment a-t-il organisé son livre ? Eh bien on va aller à la page 367 qui est la page de la table des matières. Je vais y arriver certainement. Voilà, elle est ici. Alors, après une introduction qui est assez consistante, hein, qui pose bien le sujet, eh bien, c'est organisé en 6 chapitres. La fermeture des océans, le commerce maritime militarisé, la concurrence ennemie du capitalisme, le capitalisme contre le marché, la souveraineté des marchands et l'éternel retour des empires de ressources, outre, bien sûr, vous le comprenez, la conclusion. Alors, un peu de lecture, hein. Il faut prendre, si vous me permettez l'expression, la température du livre et voir un peu quel est son rythme, quelle est son ambiance. Donc, je vais vous en lire 2 ou 3 paragraphes pris au hasard. Donc là, je suis à la page 248 dans le chapitre intitulé « La souveraineté des marchands ». Donc voilà ce que nous en dit Arnaud Aurin. C'est peu dire que nous assistons en ce début de XXIe siècle à un éclatement de la souveraineté. L'émergence de nouvelles compagnies-États est en effet l'un des traits saillants de notre époque, mais leur nouveauté n'est pas aussi grande qu'il y paraît. Les monopoles de nouvelles technologies américaines et chinoises ont en effet beaucoup de points communs avec la compagnie des Indes. Donc là, on revient dans le passé. Elles ont été et restent d'abord soutenues financièrement et politiquement par la puissance publique, fonds marins, espace, cyberespace, elles sont ensuite des firmes qui colonisent, entre guillemets, certains territoires. Leurs domaines d'intervention, enfin, sont à la croisée du civil et du militaire, avec une incursion de plus en plus forte dans la sphère régalienne. Elles exercent une forme de souveraineté, et comme leurs devancières, elles sont souvent en accord, parfois en concurrence. Leur degré d'autonomie est sans doute un peu plus grand que certaines compagnies des Indes avec leurs États respectifs. Or, comme elles, il faut interroger leur caractère commercial, entre guillemets, d'étrange nature. Les liens entre le département de la défense américain, les agences de renseignement et les firmes de haute technologie sont parfaitement connus. Des hommes comme Peter Thiel, avec Palantir, ou Eric Schmidt, ancien dirigeant de Google et membre de commission du Pentagone, sont à la croisée des deux mondes. Par attribution de marché à des dizaines de milliers de dollars pour la finiture de produits allant de logiciels à des casques pour l'armée américaine, en passant par des caméras embarquées, mais aussi par le subventionnement ou l'entrée au capital pour le développement de Google Earth, par exemple, la puissance publique a contribué à l'émergence des acteurs des nouvelles technologies et à leur extension tentaculaire du fond des océans à l'espace. Voilà, c'était pour vous donner un peu l'ambiance de ce livre. C'est tout à fait passionnant. Conclusion de l'essai, Arnaud Rhin nous montre que le monde est pensé comme un gâteau dont la taille ne saurait grossir, de sorte que tout ce que l'on peut désormais gagner sera pris à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire confisqué par des acteurs qui vont s'arroger la possibilité de monopoliser des ressources, des routes maritimes, des portions d'océan, l'espace, le cyberespace, vous l'avez entendu tout à l'heure. Et tout cela au détriment d'un univers concurrentiel et l'historien et l'économiste, puisqu'il a une double qualité, nous dit très clairement que l'augmentation du niveau de vie pour tous, qui a longtemps été défendue par les Nations Unies ou l'Organisation Mondiale du Commerce, n'apparaît plus sérieusement envisageable. Pour lui, si la politique de nos grands rivaux se poursuit, nous allons nous retrouver au-devant d'une perte de souveraineté industrielle majeure. Dans ce cadre, les populations vont devoir se rendre compte que fonctionner dans un cadre néolibéral concurrentiel comme elles l'ont connu, protégé par un État-providence relativement fort et rassurant, est peut-être aujourd'hui devenu intenable. Pour nos générations, c'est une sorte de retour dans le monde d'avant, la construction de ces grandes monarchies nationales. Autrement dit, là je le cite, ouvrons les guillemets, pour nous dans un monde dystopique et cyberpunk. Alors cet essai, bon, pourquoi faut-il le lire ? D'abord parce qu'il est passionnant, parce qu'il nous permet de découvrir cette notion de capitalisme de la finitude que finalement peu de gens connaissent. Et l'auteur y pose implicitement cette question, et si la politique prédatrice de Donald Trump, de la Chine de Xi Jinping, mais aussi la prise de conscience écologique actuelle, obéissait à la même logique, c'est-à-dire celle d'un monde fini qu'on ne peut pas exploiter à l'infini. Les rappels historiques sur ce que furent les autres époques du capitalisme de la finitude sont passionnants et éclairent fort bien les phénomènes politiques et économiques que nous subissons aujourd'hui. À mes yeux, c'est un ouvrage essentiel qui nous donne des clés de compréhension indispensables pour nous permettre de comprendre les bouleversements actuels qui nous affectent si fort en ce début d'année 2025. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Grégoire Nachez. Vous pourrez retrouver bien sûr le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à tous.